Bonjour. Alors, on continue aujourd'hui avec un commentaire. On continue un peu avec le commentaire où on a fini l'autre fois. Et après, on passe à la causalité. Et je ne crois pas qu'on finira aujourd'hui. Alors, il y aura un spillover à la prochaine. Je suis toujours en derrière de mon plan. Alors, je vous rappelle que nous avons commencé à faire un petit modèle. L'autre fois, nous avons visiter avec plus précision la syntaxe de Kappa et comment on peut exprimer certaines interactions. Et on a commencé avec un modèle très simple, très petit, de polymérisation et de reconnaissance. Alors, je vous rappelle que nous avons contemplé une séquence de balles blanches et noires et une copieuse qui voyage sur cette séquence et essaie de la copier à chaque position. Et nous avons vu que si on couple l'apparition d'un nouveau nucléotide, d'un nouveau symbole correspondant à ceux de la séquence originale, si on couple cet apparition avec le mouvement de la copieuse, alors on peut polymériser, si on veut, même si le lien entre l'agent nouveau et la chaîne qui est en train de se grandir n'a aucune énergie, parce que le système est forcé par l'entropie. Et on a aussi vu que même si il y a une grande différence d'énergie, peut-être, entre l'apparition correct et l'apparition faux, que en principe, cette différence aurait été utile pour garantir un apparition correct. Mais apparemment, à l'apparition, c'est l'apparition. On peut utiliser cette différence d'énergie pour augmenter la précision de la copieuse, mais le problème est que cette différence d'énergie peut être utilisée seulement si le mouvement de la copieuse est très très lent, s'il est pratiquement zéro dans les limites thermodynamiques. Mais si vous avez une grande différence d'énergie, alors la copieuse voyage très très vite. Et alors, cette différence d'énergie ne peut pas être utilisée vraiment pour garantir une précision. Alors, c'est un compromis. Si vous avez une bonne énergie, s'il y a une différence d'énergie entre l'incorporation correcte et l'incorrecte, alors il faut aller lent. Mais en même temps, cette énergie, cette différence, cause la copieuse de voyager vite. Alors, il faut quelques proofreading. Nous avons construit un petit modèle en Kappa pour donner un exemple petit d'un simple modèle. Je vous dis qu'on peut éliminer, si on maintient la concentration des monomères, des agents qui. Des monomères. Constante, alors on peut la inclure dans le taux de réaction à travers un terme énergétique, une force motrice. Et c'est devient un paramètre, c'est une piège très utile pour simplifier les choses. Alors le modèle devient simplement un modèle de transition où toutes les réactions sont unimoléculaires, ne sont pas bimoléculaires. Bien. Nous allons vite maintenant parce que je ne crois pas qu'il est nécessaire de faire beaucoup de démonstrations, mais on peut augmenter ce modèle très, très simplement par introduire au lieu de par introduire excusez-moi par introduire un état qui est un état intermédiaire ou peut-être une suite des états intermédiaires. Et avant que la copieuse puisse ajouter un nouveau monomère. Alors, c'est-à-dire que ici, la copieuse ajoute un monomère et avance. Et après, cet état doit se transformer en un nouveau état de Z à ON. Et c'est seulement à cet état-là quand l'état de monomère du candidat est on, alors c'est à ce moment-là que la copieuse peut essayer un nouveau monomère et avancer. Alors c'est un peu un delay, c'est un mécanisme pour implémenter du proofreading, c'est-à-dire de relecture, où on avance ici, la copieuse ajoute un monomère, mais évidemment, c'est tout réversible, mais cet état doit devenir un nouveau état, et seulement quand on est dans cet état on, en particulier état du monomère, qui ici est on, cet motif peut, l'état qui est... Il faut faire attention ici, parce que ça, ce sont pas des états vraiment de la... Ça, ce sont des motifs, des schemes. Ce sont les parties gauches de règles. Et alors, vous voyez que au moment que nous sommes ici, que cette règle ici a produit un état qui est spécifié par cet motif, qui contient ce motif. Alors, la règle avec la partie gauche spécifiée par ce motif ici peut être appliquée ici. Alors, c'est-à-dire, parce que cette motif a une correspondance ici. Et alors, on peut, à ce moment-là, on peut commencer à ajouter de nouveaux monomères. Mais on peut aussi faire un pas à l'arrière et recommencer de nouveau. Et à ce moment-là, il faut traverser toutes les changements d'état de nouveau. C'est un peu comme dire dans un ordinateur, s'il y a si vous voulez fermer un programme, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et dit ah, êtes-vous sûr de faire ça? C'est un peu une stratégie de delay pour exactement permettre à cette réaction de se passer. Et alors, il y a une relecture. On peut faire ça avec un paysage énergétique où on assigne toute cette réaction des forces motrices et des énergies. Et on peut commencer à jouer un peu avec ces paramètres pour voir, pour découvrir qu'est-ce que sont les compromis qu'on peut faire pour maximiser, pour optimiser la précision de la copieuse. Et effectivement, ce qu'on voulait faire est de rendre cette réaction ici irréversible, le plus irréversible possible, et même cette réaction aussi. Alors, on voudrait éviter qu'on passe directement de cet état ici à cet état là. Et c'est comme un shortcut. Mais si vous jouez avec ce modèle un peu, vous découvrez que c'est très difficile à faire ça, qu'il faut faire des compromis, c'est pas très simple. Je veux seulement ajouter un petit remarque pour ce qui concerne la modélisation. Ça, c'est le modèle avec ces transitions d'état intermédiaires. Mais à ce moment-là, il faut penser aussi à ce qui se passe à la fin de la chaîne. Si la copieuse arrive à la fin de la chaîne, alors oubliez pour le moment cet état vert et cet état rouge. Oubliez ça pour le moment. Ici, la copieuse est arrivée à la fin de la chaîne originale, de la séquence originale, parce qu'il n'y a rien au site droit, il n'y a aucun monomère, on est arrivé à la fin. Et la copieuse ajoute un nouveau monomère, ici. Mais ça doit être réversible, évidemment. Mais la copieuse ne peut pas faire un mouvement à ce moment-là, parce qu'elle est arrivée à la fin. Et si vous oubliez cet état ici, alors il y a un problème, parce que si vous êtes arrivé à la fin, alors vous avez ajouté un monomère, mais vous n'avez pas bougé la copieuse. Alors la règle, cette règle, vous êtes toujours dans l'état intermédiaire, Z, cette règle qui, la règle qui applique aux états intermédiaires qui ne sont pas à la fin de la chaîne, cette règle ici, la règle reverse, où ça c'est la partie gauche et ça c'est la partie droite, applique à cette, peut s'appliquer à l'état qui est produit par, par cette situation. Et alors, dans ce cas, vous allez un pas à la gauche, en arrière, mais vous ne perdez pas... mais vous avez déjà ajouté un monomère. Et alors, vous avez fait un pas à gauche. Et alors, vous pouvez ajouter un nouveau monomère et faire un pas à la droite pour arriver de nouveau à la fin de la chaîne, etc., etc. Alors, dans ce cas, on peut... Parce que cette situation ici, cette règle s'applique à cette... le motif ici a une correspondance ici. Et alors, vous continuez à ajouter des monomères, et ça, c'est évidemment un problème. Et c'est pour ça qu'il faut, le moment que vous êtes arrivé à la fin de la chaîne, de la séquence, il faut ajouter un nouveau état pour prévenir que cette règle s'applique. Alors, cette règle doit être modifiée pour contrôler si l'état est rouge, la règle, c'est-à-dire si vous êtes arrivé à la fin de la chaîne, c'est-à-dire cette règle ne peut pas s'appliquer dans cette direction. Il faut c'est un détail, mais c'est un détail intéressant parce que il montre que d'un point de vue mécanique, si vous êtes arrivé à la fin d'une chaîne, il y a un traitement spécial. Mais c'est la même chose dans la nature. Quand vous êtes arrivé à la fin de la séquence, il faut un mécanisme additionnel pour finir correctement. C'est un peu comme dans les télomérases. Alors, c'est curieux que si le moment que vous faites un modèle mécanique à ce niveau-là, vous rencontrez des problèmes qu'il faut résoudre qui ont correspondance avec des problèmes dans la nature. Bien. Avant de passer à la causalité, c'est opportun à se rappeler que beaucoup de ce que je dis est vraiment l'œuvre de ces 6 personnes ici. En particulier, dans la causalité, on utilisera la pensée de Jonathan Laurent et de Jean Cribin en particulier, et de Jérôme Ferré, évidemment. Alors, causalité. Nous avons vu un modèle qui est de type... nous avons vu une utilisation de kappa qui peut-être peut être caractérisée comme un essai de faire un modèle de physique statistique. Et en fait, je crois que kappa peut être très utile comme une plateforme pour explorer des situations de physique, pour augmenter un peu l'horizon de l'application de la physique statistique, parce que il vous permet de définir, de spécifier des interactions beaucoup plus hétérogènes qu'on spécifie normalement dans la physique statistique. Alors ça pourrait être très utile d'avoir une plateforme comme ça. Mais quand vous faites des modèles de ce type-là, et pratiquement si vous posez des questions qui sont de nature énergétique, alors il faut faire vraiment attention à définir le paysage énergétique et de définir les taux de réaction d'une manière propre. Si on passe à la modélisation de systèmes biologiques, alors il y a plusieurs choix. On peut faire des modèles qui typiquement représentent des situations qui sont beaucoup au dehors de l'équilibre, où on met beaucoup de, des aspects mécaniques, mécanistiques, parce que on ne représente vraiment pas toutes les réactions qui sont couplées avec énergétiquement, là, par exemple l'usage de RTP, etc. On se concentre plus sur la mécanique du traitement de l'information, si on veut, le passage du signal, le traitement d'un signal. Et ça, c'est un type différent de modélisation où vous produisez très vite des modèles très complexes. Alors, vous remplacez un monde que vous ne comprenez pas avec un modèle que vous ne comprenez pas. Et nous verrons, nous discuterons une situation comme ça la prochaine fois. Mais maintenant, un modèle peut être si petit comme ça, mais c'est très difficile à comprendre. Ça, c'est un modèle, ce sont des règles très simples à la fin qui se passent, qui représente une situation de signalisation très proche à la membrane, vraiment les premiers pas de signalisation. Ce n'est pas même une voie de signalisation, c'est vraiment seulement les premières interactions entre un récepteur, entre un signal et les liens qui se forment après que le récepteur a été activé. Alors, ce n'est pas très important au moment ce que c'est la biologie de ce système. D'un point de vue abstrait, ce que c'est important est que vous avez que nous avons un modèle qu'il faut explorer, qu'il faut comprendre un peu. Et comment est-ce qu'on comprend un modèle comme ça typiquement? Oui, on fait des simulations et alors on est intéressé à un particulier événement, comme le recrutement d'une protéine à la membrane, qui est médiée par plusieurs des interactions et on peut faire une simulation qui vous dit quelle est l'abondance de cet événement, c'est-à-dire combien de particules de sauce, dans ce cas, c'est un particulier protéine, ont été recrutées à la membrane. Mais ça ne vous dit rien vraiment comment cet événement se sont produits. Et c'est ça que vous voulez, je crois, savoir si vous êtes intéressé à une explication. La causalité, il y a différentes approches à comprendre la question à donner une réponse à la question de pourquoi. Et nous les visiterons tous. Brièvement, comme j'ai dit, chaque section pourrait être une complète leçon, ou un cours même. Mais tout ce que je vais faire est vous donner un résumé un peu d'autres altitudes de ce qu'on peut faire. Et aussi, beaucoup de ce que je dis n'est pas encore vraiment compris en détail. Il y a beaucoup de questions ouvertes. Et c'est un champ qui est, je crois, dans la modélisation basée sur les règles, qui est en train de se développer très vite. Eh bien, alors, il y a un aspect de la causalité, c'est vraiment pas la causalité, mais c'est une introduction à la causalité qui s'appelle l'influence. Alors, une règle peut avoir une influence sur une autre règle. Par influence, intuitivement, on comprend, c'est l'idée que l'application d'une règle change l'état d'un système de façon qu'une autre règle puisse gagner gagne la possibilité de s'appliquer. Elle gagne un état où elle devient applicable. Alors, ici, vous voyez une règle R, la règle à la droite, c'est une règle qui lie A à B. Et la règle à la gauche, c'est une règle qui Excusez-moi, c'est une règle qui délie A de B, qui dissolue la liaison entre A et B. Et la règle à la gauche, S, est une règle qui prend un A et qui est lié à un C et phosphorylise, par exemple, le site X. C'est pas phosphorylé ici, ça c'est le nœud blanc et il phosphorylise. Alors, pourquoi cette règle peut avoir une influence sur cette règle ici? C'est parce qu'elle produit un état auquel cette règle devient applicable. Pourquoi? Parce que cette règle... Où est-ce que je suis? Ici, excusez-moi. Alors, c'est parce que cette règle demande une site de A, le site X de A, qui soit libre. Alors, il n'y a pas un lien ici. Et alors, exactement cette règle, oui, délie A de B, mais B n'a aucun rôle. Cette règle s'en fout de B, parce que oui, B est lié sur le site X, mais cette règle demande que le site X soit libre, et cette règle libre le site X. Alors, si vous avez une intersection, si on peut dire comme ça, entre la partie droite de la règle R et la partie gauche de la règle S, si vous avez une intersection, que c'est cette intersection ici, qui est modifiée par la règle S, alors vous avez une condition formelle pour que la règle R puisse avoir une influence sur la règle S. OK. Alors, ça, c'est une influence positive, c'est-à-dire chaque fois que la règle R pourrait être la cause du dernier événement qui est nécessaire pour déclencher la règle S. Pourrait, c'est une sémantique de possibilité. Ce n'est pas une simulation ici, c'est seulement la considération d'une possibilité. La même chose applique pour une influence négative, c'est-à-dire si l'application, le déclenchement de la règle R diminue les possibilités d'application de la règle S, parce qu'il consomme, il utilise des motifs dans la mixture auxquels la règle S pourrait être appliquée. Alors, c'est comme une compétition, si vous voulez. Et c'est la même idée si vous avez une intersection entre les parties gauches des deux règles qui est modifiée. Alors, il y a évidemment une compétition pour des applications, pour des motifs d'application. Alors, dans ce cas, la règle R a une influence négative sur la règle S. Vraiment, il faut que vous me posiez des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que expliquer ces choses dans un langage que je ne parle, où j'ai des difficultés à commander un dîner, vous imaginez expliquer cette situation ici. Alors, c'est pas un problème de poser des questions. On pourrait considérer une situation un peu plus complexe où la règle R produit un état qui est d'une partie plus proche, qui satisfait partiellement les conditions de la règle S, mais seulement partiellement, ou il est aussi dissatisfait certaines conditions. Alors, une règle pourrait rendre le monde plus proche à l'application, à l'état de la mixture, plus proche à l'application de la règle S d'un côté et de la même côté, en même temps, plus loin. Alors ça, c'est-à-dire que pour cette règle pourrait être nécessaire pour que S puisse s'appliquer, mais pas directement. Il faut une autre règle, un autre événement il faut un autre événement pour nettoyer, si on veut, le problème produit par cette règle R. Voyons si on peut voir ça ici. Cette règle lie C à A, et cette règle ici demande que C soit lié à A, mais aussi demande que X soit libre. Le site X est libre, mais il n'est pas libre ici. Dans ce cas, contribue à la satisfaction de la partie gauche de S, mais pas complètement. Influence n'est pas transitive parce que règle 1 peut avoir une influence positive sur la règle 2. Dans ce cas, on a A et B sont déliés par règle 1. Règle 2 les lie, c'est le reverse de la règle 1, de la règle 2. Alors clairement, ça c'est une influence positive, mais c'est aussi une influence positive de règle 2 à règle 3 parce que règle 2 lie A à B, qui est une condition pour la règle 3. Et alors, c'est une influence positive, mais 1 à 3, c'est négatif. Parce que 1 délie A de B, et ça, c'est une violation de la condition de cette règle 3. Alors, ce n'est pas transitif, il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, une fois que vous avez cette relation entre les règles, une relation de influence, vous pouvez statiquement, parce que ce n'est pas une relation, c'est une relation de possibilité, vous pouvez statiquement produire une carte qui vous donne cette relation d'influence entre toutes les règles. Et ça, ça peut être utile. Déjà, pour exemple, peut-être pas pour expliquer ce qui se passe dans un modèle, mais pour voir si, pour faire un debugging de votre modèle. Si vous voyez qu'il y a des relations entre des règles que vous n'expectez pas, alors ça pourrait les faire visibles. Mais néanmoins, on retournera à cette carte ici. Ben, c'est une carte de possibilité d'influence. Bien, alors on peut aller un pas plus en là par contempler l'influence réalisée. C'est-à-dire, on fait une simulation maintenant. Et l'idée de base est que chaque fois, alors nous sommes au milieu d'une simulation et nous avons cette mixture qui représente l'état du système. Et une règle s'applique. Et alors, on peut calculer à ce moment-là, à ce temps-là, T, qu'est-ce que c'est la différence, l'exécution de cette règle change l'état de mon système, et de conséquence, certaines règles auront plus ou moins des correspondances dans la mixture. Et on peut calculer exactement ce que c'est la différence d'activité sur chaque règle qui est causée par l'application, par cet événement. Alors, ça, c'est l'idée de la dynamic influence. Alors, ça, c'est notre carte statique. On peut être... supposons que nous sommes intéressés à l'impact de cette règle ici. Alors, imaginez que nous sommes au temps T, ça c'est le temps, et que dans un intervalle de T à T plus tau, intervalle de longueur tau, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent. Mais nous sommes intéressés seulement aux événements qui sont produits par cette règle jaune. Et ce sont les événements rouges, supposons. Alors, chaque fois que cette règle jaune est appliquée et est déclenchée dans cet intervalle, on peut calculer, par exemple, par cette règle ici, auquel nous avons que cette règle peut influencer en accordance avec notre carte statique. Prenons cette règle ici. On peut calculer qu'est-ce que c'est l'activité de cette règle, qui dépend au nombre de correspondances qu'elle a dans la mixture à ce temps-là. Qu'est-ce que c'est la différence de l'activité de cette règle avant l'application de avant cet événement dû à la règle jaune et après cet événement dû à la règle jaune. Et vous calculez cette différence, peut-être vous calculez la différence relative, et vous, pour cette règle ici, ça c'est un petit nombre, vous faites la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, vous sommez toutes ces différences et vous prenez le moyen dans ce temps tau. Et ça vous donne une matrice à la fin de si vous avez une on dit une ligne de matrice. Oui. Alors si vous avez la ligne qui correspond à la règle jaune, toutes les colonnes de la matrice vous donnent l'influence que cette règle jaune a sur chaque autre règle dans l'arc de temps de longueur tau, et vous pouvez ajuster tau. Alors c'est on peut c'est un peu comme une jacobien, je crois. C'est un peu c'est peut-être mieux à considérer un exemple. Ici, vous avez un très simple exemple qui est inspiré à une machine ou à un petit système qui produit des rythmes circadiens dans des cyanobactéries. C'est c'est l'oscillateur Kai ABC. Et laissez-moi expliquer brièvement. Le système, en réalité, est beaucoup plus complexe. On a des modèles assez réalistes. Mais ça, c'est seulement un schéma, le schéma plus simple. Alors, vous avez une protéine C qui a, dans ce cas, 6 sites où il peut être phosphorylé par un processus de phosphorylation, et il peut être aussi déphosphorylé. Alors, il passe à travers des différentes configurations. Justement, il est complètement phosphorylisé. Il peut retourner à être déphosphorylisé. J'ai oublié de souligner que dans cet état ici, dans l'état où il est déphosphorylé, il est dans un état actif. Quand il est phosphorylé, il est dans un état inactif. Quand il est dans un état actif, c'est-à-dire quand il est déphosphorylé, pour qu'il puisse être phosphorylé, il faut l'aide d'un enzyme A qui se lie à C et aide dans cette direction. Quand C est phosphorylé, le moins est son affinité vers A, et à la fin, A se découple de C, se délie de C, et C peut retourner à se déphosphoryler. Okay? Si vous êtes un particulier C, si vous êtes, l'appelons Pierre, si vous êtes Pierre, alors vous pouvez, vous faites une oscillation, évidemment, une oscillation dans laquelle vous serez plus et plus phosphorylé avec l'aide de A, après A se délie, et vous retournez à vous déphosphoryler dans l'état, jusqu'à retourner à l'état actif. Alors c'est une petite oscillation pour Pierre, mais Ferdinand fait la même chose, et toutes les molécules passent le même cycle, mais pas synchronisées. Alors, au niveau de toute la population, vous ne voyez aucune oscillation parce que ce sont tous des phases différentes. Alors, il faut les synchroniser. Et alors, ça, c'est le comportement du système, mais vous ne voyez pas ce comportement-là parce que toutes les molécules individuelles de type C ne sont pas synchronisées. Alors, pour synchroniser les molécules, pour vraiment voir cette oscillation au niveau du système entier, il y a un troisième composant, c'est B, la protéine B. La protéine B s'attache à C quand C est devenu inactif, c'est-à-dire quand C est complètement phosphorylisé. Et A s'est détaché. B s'attache à C. Et le moment que B s'attache à C, B se lie aussi à A, très vitement. Mais dans ces conditions, A ne peut pas phosphoryliser aucun. Et c'est-à-dire que B séquestre A. L'A n'est plus une ressource pour des autres C. Et ça dure jusqu'à c'est déphosphorylisé. À ce moment-là, B se détache. Et quand il se détache, A, se délie de A. Et ça, c'est un mécanisme pour la synchronisation. Pourquoi ? Parce que si vous êtes ici, alors parce que c'est tout un système stochastique, alors il y a toujours une distribution des C, certains C sont peu phosphorylisés, autres sont beaucoup phosphorylisés, autres sont en moyen. Alors, imaginez que vous êtes ici, et alors il y a des C qui sont déjà dans la vallée, et il faut les arrêter parce que autrement ils commencent à se phosphoryliser et tout ça s'annule. Alors il faut les arrêter. Et il faut les arrêter, la façon pour les arrêter est de séquestrer l'A qu'ils ont besoin pour se phosphoryliser. Et c'est justement le C qui séquestre l'A qui sont encore au sommet de la montagne. Alors ceux qui sont ici arrêtent ceux qui sont à la base de la vallée, dans la vallée. Et de cette façon-là, la distribution maintient un peu de cohérence. Ce n'est pas parfait, évidemment, c'est tout statistique, mais il y a des travaux qui analysent le degré de synchronisation dépendant de numéro de sites, etc., etc. Mais vous voyez le principe. Alors, c'est un principe de maintenir cette distribution cohérente pour vraiment... pour que vous ayez une oscillation au système entier. Bien, alors ici, nous avons une petite visualisation de ce modèle où chaque nœud est une règle et les liens entre ces règles sont les influences. C'est comme la carte statique, except que maintenant, c'est dynamique parce que ce sont des influences calculées chaque moment de temps, considérant l'état du système. La grandeur du disque est une mesure de l'activité de la règle. Vous voyez ici comme on peut suivre un peu. Ici, vous avez la situation relative au comportement macroscopique et on arrive au sommet et il y a un changement très, 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 très dramatique de la relation des influences entre les règles. Jusqu'on arrive à la vallée et après, on a de nouveau une transition des relations d'influence entre les règles. C'est peut-être mieux de le voir dans une représentation différente. Avec cette visualisation, on peut, si vous étudiez un peu si vous utilisez cette plateforme, on peut commencer à top-in. de fixer les règles, parce que avant c'était tout auto-organisé, parce que c'était un clustering automatique, c'était une layout qui est produit une relation d'influence positive et attractive, une relation d'influence négative et répulsive. Alors, c'est un layout automatique, mais on peut éviter ça et fixer la position des nœuds pour pouvoir mieux voir que ce qui se passe. Et alors, ici, vous voyez le nœud seulement comme aide à l'interprétation pour vous expliquer ce que vous voyez. Ça, c'est la règle dans laquelle A se libre de B et se libère de B et A se peut libérer de B seulement quand B est détaché de C, ce qui se passe dans la vallée. Ça, c'est la règle qui attache A à C pour que C puisse se phosphoryliser avec A, avec l'aide de A. Et alors, on voit qu'au milieu, il y a une suite de règles qui réfère à la liaison entre A et B. Alors ça, c'est la déliaison de A et B. Ça, c'est la liaison entre A et B. Ce sont les règles qui sont actives quand vous êtes pour les C qui sont au sommet. Et alors cette règle ici, vous voyez, si on étudie cette carte avec attention, ce sont des règles qui chaque fois que, quand vous êtes dans cette régime, cette règle prévient que le A libéré, qui se libère d'un B, puisse être lié par un C. Et il évite ça parce que chaque A qui est libéré est immédiatement absorbé par un B et à cause de ces règles ici. Ouais, en tout cas, quand on arrive ici, alors cette dynamique se manifeste où le A qui est libéré de B n'arrive jamais à un C parce qu'il est complètement intercepté par les B, et ça se manifeste dans cette structure, au changement de la structure d'influence. Bien, on peut procéder vers la causalité. Il y a deux façons de voir la causalité, au moins. Une façon de voir la causalité est pratiquement comme non-indépendance, l'inverse de l'indépendance, comme on la connaît dans la concurrence en informatique. Et l'autre est une conception de la causalité qui définit la causalité à travers les contrefactuels, et on verra ça. Alors, pour clarifier un peu, quand je parle de causalité, ou quand on parle de causalité en général, dans des systèmes basés sur les règles, on parle toujours d'une analyse de la causalité d'une histoire qui s'est produite. Ce n'est pas la causalité, comme on dit, la causalité des types, c'est-à-dire on n'est pas... on ne fait pas on n'essaie pas d'établir une phrase comme le fume tue, parce que ça c'est une causalité entre, c'est pas l'analyse d'un particulier événement. C'est, si vous avez un homicide, alors on est intéressé exactement à ce qui s'est passé. Alors vous avez une histoire, un événement s'est produit et on veut tracer à l'inverse dans l'histoire, dans les événements qu'on a, qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas alors la causalité des types, c'est seulement une causalité qui est spécifique à une, c'est une causalité où on voit au passé. Dans la causalité de type, on voit au futur. On peut dire que si on prend de l'argent, alors on aura de l'inflation ou quelque chose comme ça. C'est une prédiction. Ici, nous ne sommes pas dans le jeu des prédictions, nous sommes dans le jeu de l'explication qui focalise au passé. Eh bien, alors on peut imaginer une trace, que c'est une ligne dans le temps physique où chaque événement a un particulier, s'est produit un certain temps physique. Et on peut oublier le temps physique pour le moment parce que c'est relativement arbitraire. Ce qui est important pour la causalité, c'est la séquence des événements, pas nécessairement le temps dans lequel ils se sont passés, ils se sont produits. Alors, on repense ces traces comme une séquence des événements, l'événement 1, 2, 3, etc., jusqu'à l'événement N. Et un événement en abstrait, on peut considérer un événement comme une particulière condition qui doit être satisfaite. Quand l'événement s'est produit, il a un effet sur le système, c'est-à-dire il a changé l'état du monde, et ça, c'est son effet. On peut voir l'événement comme une mappage de conditions, de préconditions à effet. Évidemment, dans les cas de kappa, on a une vision mécanique de cet événement. Alors, on peut vraiment analyser qu'est-ce que sont les préconditions, qu'est-ce que sont les effets, etc., parce qu'on a un langage pour exprimer ça, les règles. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est plus formel de ce que je veux être, mais c'est peut-être utile de contempler un peu plus la précision qu'il faut pour définir l'indépendance. Alors, souvenez-vous que nous sommes en train de définir la causalité à travers la non-indépendance. Alors, il faut définir l'indépendance avant. L'indépendance, est un événement 1 et 2 sont indépendants. Si l'événement 1 et 2 se peuvent produire dans un contexte, chacun de ces événements par lui-même peuvent se produire. Et si cet fait implique que les deux événements peuvent se produire peuvent être permutés, que l'événement 1 peut... peut se passer avant événement 2 et vice-versa, et que l'effet est le même. Alors, on peut le permuter. Essentiellement, ça dit deux événements sont indépendants s'ils sont contigus dans une trace, dans une séquence des événements, et on peut le permuter et l'effet... cette permutation n'a aucun effet sur l'état final de la trace. Les conditions sont, assumons qu'on demande ça pour tous les contextes, seulement pas un contexte, et on fait ça parce que, alors, cette condition ici, simplement, est là pour éviter une situation de cette type-là, qui est triviale. Ici, vous voyez deux règles, 1 et 2, qui sont clairement indépendants l'un d'autre, parce que cette règle ici se préoccupe du site X et change l'état à site X. Cette règle ici se préoccupe du site Y, mais ils s'en foutent de ce site X. Alors, ce sont clairement indépendants, mais ils ne se peuvent pas produire dans un état comme ça, parce que tous les deux les règles demandent que S soit phosphorylisé. Et dans un état comme ça ici, si ça, c'est une molécule dans votre mixture, c'est toute la mixture, ni R1, ni R2 peuvent déclenchée parce que leur condition, cette condition n'est pas satisfiée. Alors ça, c'est pour ça qu'on fait ça dépendant du contexte. On veut que les événements puissent se produire. Ça, c'est intéressant actuellement parce que dans ce cas, contempler ces deux règles ici, R1 et R2, et R1 est une règle un peu étrange parce qu'elle ne spécifie pas l'état du site S. Il peut être blanc ou noir. Mais en tout cas, et en fait, la règle, c'est il ne m'importe pas ce que c'est l'état de S. En tout cas, je mets S dans l'état noir. Cette règle ici spécifie l'état de S, du site S, et change l'état de X. Alors, ces deux règles sont indépendantes. L'indépendance de ces règles dépend du contexte, parce que si vous avez un contexte comme ça, si ça c'est votre mixture, alors les deux règles sont indépendantes, parce que cette règle n'a pas besoin de règle R1, parce que l'objet A a déjà S dans l'état noir. Alors, cette règle peut se déclencher. Mais si le contexte est celui-ci, alors il faut que R1 se produise avant de R2 pour mettre S dans l'état noir, qui est une condition pour la règle 2. Alors, c'est le contexte qui détermine l'indépendance. Maintenant, dans Kappa, c'est intéressant qu'il y a un fragment de langage. C'est le fragment dans lequel, si vous évitez d'écrire règles comme ça, c'est-à-dire si chaque fois que vous modifiez, qu'une règle modifie un site, l'état de ce site doit être spécifié sur la partie gauche. Alors, cette règle, dans ce fragment de kappa, cette règle ne serait pas possible. Si vous avez ce fragment de kappa, alors si deux règles sont indépendantes dans un contexte, elles sont indépendantes dans tous les contextes. Alors, ça, simplifie toute la chose. Alors, nous regardons un fragment de kappa dans lequel ça est le cas, où où ça est automatiquement réalisé. Bien. Alors, une fois qu'on a défini indépendance, peut-être un peu trop technique pour notre objectif, mais une fois que nous avons défini l'indépendance, alors on peut définir une équivalence des traces, et deux traces sont équivalentes les événements contigus 1 et 2 sont indépendants parce qu'on peut les permuter. Alors, ce sont deux différentes traces, mais ils sont équivalents dans les faits qu'ils ont. Et une précédence, alors, est définie par événement I précède l'événement J. Si I et J, les événements I et J, ne sont pas indépendants, et I précède dans le temps, I se produit avant de J. Alors, ça, c'est une précédence logique. Alors, c'est pratiquement une non-précédence, non-indépendance. Eh bien, on peut, comme vous savez, comme les informaticiens sont bien, on peut représenter les traces qui sont équivalentes avec des arbres, des diagrammes qui sont des graphes directs acycliques où chaque nœud est un événement. Et si un nœud à un arrêt ou une flèche vers un autre nœud, alors ici 1 précède 3, 2 précède 3, et 1 et 2 doivent se produire avant que 3 puisse se produire. Les séquences, les traces dans le temps physique qui sont compatibles avec cette causalité sont 1, 2, 3 ou 2, 1, 3. Parce qu'il n'y a pas une relation de précédence entre 1 et 2. Alors, 1 peut se produire avant de 2 ou 2 avant de 1, comme ici. Mais tous les deux doivent se produire avant de 3. Et vous pouvez avoir des diagrammes plus compliqués pour exprimer des contraintes causales. Bien, il y a un petit... la causalité, ce n'est pas exactement non-précédence, parce que il est possible qu'un événement... un événement, c'est peut-être illustré ici mieux, qu'un événement qui chaque fois un événement peut précéder un autre événement et faites-moi expliquer ça avec cet exemple. Alors ici vous voyez une règle 1, la règle 1 cette règle doit se produire avant de 2 parce que si la règle 2 se produit avant de 1, elle détruit une condition de la règle 1, c'est le lien entre B et A. Alors, chaque fois que vous observez l'événement 1, il faut que vous l'observez avant de l'événement 2. Mais l'événement 1 ne cause pas l'événement 2, parce qu'il n'y a aucune condition que l'événement 1 contribue à satisfier pour 2. Mais 2, oui, dans ce cas, 2 a une contribue à satisfaire une condition pour 3 parce qu'il libère le site X. Alors, c'est comme dire, par exemple, si vous avez une phosphorylisation, deux règles, une phosphorylisation d'un protéine A et la dégradation d'une protéine A, et supposons que la dégradation de protéine A n'a vraiment, vous savez empiriquement qu'elle n'a rien à faire avec la phosphorylation de A, mais clairement, vous observez une phosphorylation de A, il faut toujours que vous l'observez nécessairement avant la dégradation de A, parce qu'il n'y a rien à phosphoryliser après A s'est dégradé. Mais on ne peut pas dire que la phosphorylation de A cause la dégradation de A. Donc c'est ça une condition où A, où un événement, la phosphorylation de A, doit précéder la dégradation de A, un autre événement, mais il ne cause pas cet événement. C'est parce que si le deuxième événement se produit avant, il prévient l'occurrence d'événements A. Bien, alors pour faire un petit exemple, imaginez que vous avez ici un petit système qui c'est un système de Michaelis-Menten, notre cas typique, où vous avez une kinase, un enzyme K qui se lie à un substrat S. N'est pas phosphorylisé à Y, au site Y. Vous avez un déliment, une dissociation entre K et S, qui est indépendant de l'état de Y. Et vous avez une phosphorylisation. Une fois que K est lié à S, il peut phosphoryliser, il peut changer l'état au site Y. Et ce que vous êtes intéressé avec ces trois règles, très simple, vous êtes intéressé à l'événement, à comment se produit l'événement dans lequel S est phosphorylisé et délié de tout, simplement un S phosphorylisé. Alors, comment on ferait ça automatiquement? On pourrait imaginer, il faut alors imaginer que vous avez ces trois règles, vous avez un système ici qui est très simple, pour illustrer, il contient trois instances de S, trois instances de K, ça c'est notre système, et vous simulez ces trois règles et vous produisez une trace, une séquence des événements qui va de qui est celle-ci, de événement 1 à événement 9. Et à la fin, il se produit l'événement d'intérêt, c'est-à-dire le substrat qui est phosphorylisé apparaît. Et vous êtes maintenant intéressé, cette histoire, c'est l'homicide, c'est déclenché, et vous êtes intéressé maintenant à suivre en arrière, vers le passé, de comprendre comment est-ce que le passé causal de cet événement ici. Comment est-ce que cet événement s'est produit? Alors, la manière dans laquelle on fait ça, la façon dans laquelle on fait ça, la technique est une technique très simple. Imaginez que chaque site dans le système, chaque particule élémentaire, si on veut, dans le système, a une ligne dans le temps dans laquelle vous recordez, on dit recorder, vous enregistrez, sur laquelle vous enregistrez changement d'état de cet aspect du système. Et ça, ce sont les colonnes. Les lignes horizontales sont les événements. Alors, un événement ici, l'événement de B, c'est-à-dire de liaison entre K et S, c'est un événement qui teste que le site Z, le site X soit libre. Il change le lit, et il teste que Y soit déphosphorylisé, soit non, pas phosphorylisé. Alors, ça, c'est exactement l'expression ici. Ça, c'est un événement de liaison entre, dans ce particulier cas, dans cette trace qui a été produite aléatoirement, au hasard. Nous avons un engagement entre S numéro 2 et l'agent K numéro 1, où K se lie à S. Alors, le site Z et le site X sont changés ça s'est marqué par un nœud noir, que les retards sont liés maintenant, et un nœud blanc, c'est seulement un test, c'est-à-dire l'événement a testé l'état du site Y parce qu'il doit être, il ne doit pas être phosphorylisé. Alors ça, c'est l'anatomie d'un événement dans cette représentation, et vous avez la même chose pour tous les autres événements. Eh bien, alors, l'idée ici est de pousser l'événement d'intérêt, c'est-à-dire nous testons l'état de X, il doit être pallié à un enzyme. Et ça, c'est la première fois que l'événement d'intérêt se produit dans cette trace. Dans ce cas, c'était le substrat S qui s'est phosphorylisé. On teste la phosphorylisation on teste le site, l'état de site Y, l'état de site X, strictement, il n'est pas nécessaire de tester K parce que K n'apparaît pas dans les volumes. Eh bien, alors on veut pousser cette nœud dans le passé pour voir, pour visualiser ou pour calculer les dépendances des événements précédents. Alors, il est très simple, si ça c'est le temps augmente de haut en bas, et alors on veut pousser maintenant l'événement, c'est-à-dire dans la trace actuelle, et c'est produit avant et prime, et on veut maintenant voir si on peut déplacer et prime avant de et s'il y avait une dépendance ici et si sur cette particulière colonne l'événement comportait seulement un test, alors on peut évidemment échanger ça parce qu'un test ne change rien. Alors si le test est valide ici, il sera valide aussi si on échange la séquence. Si d'autre côté, on a un test qui suive une modification, alors on peut pas faire cette permutation parce que évidemment ce test ici dépendait de cette modification, alors on ne peut pas les échanger. Dans ce cas, ce qui concerne la modification de cet aspect élémentaire qui correspond à cette colonne et cause à une précédence causale sur E'. On ne peut pas changer de modification, évidemment, et ça, c'est la situation dans laquelle nous avons discuté avant, où E' peut se produire, où E peut se produire avant de E', mais pas l'inverse, mais il n'y a pas une relation causale. Ça, c'est le cas de la dégradation et de la phosphorylation que nous avons discuté avant. Eh bien, alors, si on avec cette règle élémentaire, on essaie maintenant de pousser cet événement d'intérêt vers le passé pour découvrir la trace, découvrir le passé, tous les événements qui étaient impliqués causalement dans la production de cet événement. On fait ça, alors on va en arrière ici, et les deux, vous pouvez vraiment oublier cette erreur. Concentré sur ces deux ici. Ils se ferment ou ils sont trappés ces deux conditions par l'événement E9 et E8 qui est une phosphorylation et une dissociation. Alors, c'est-à-dire que la phosphorylation et la dissociation, en particulier l'événement 8 et l'événement 9, précèdent causalement notre événement d'intérêt. Et à ce moment-là, on peut suivre U, on peut suivre l'histoire de l'événement 9 ou l'histoire de l'événement 8. Suivons l'histoire de l'événement 9. Et ici, on a ce cas de la précédence non causale, c'est-à-dire que P doit se produire avant que le substrat doit être phosphorylisé avant de la dissolution, mais clairement la phosphorylisation du substrat n'est pas une cause de la dissolution, de la dissociation, mais c'est une dépendance. Mais ce n'est pas une dépendance causale, c'est une dépendance c'est une séquence temporale qui est forcée. Eh bien, alors, on continue à suivre avec P, et on arrive à les conditions de P d'événement 8 s'arrêtent à un événement 7, ici, qui c'est la liaison, etc. On peut suivre toute cette histoire jusqu'à l'introduction, jusqu'au début. Et ce que vous voyez, c'est immédiatement qu'en faisant ça, en retraçant le passé causal de l'événement d'intérêt. De cette façon, on élimine immédiatement les événements qui n'avaient rien à faire avec la production de notre événement d'intérêt. Si vous imaginez, ça c'est un système simple, mais si vous imaginez un système très complexe où vous avez un milliard, plusieurs événements, et vous avez un particulier événement d'intérêt, il faut comprendre quel événement dans cette géante trace, la trajectoire, était vraiment impliqué dans la production de l'événement d'intérêt. Il faut éliminer tous ceux qui n'étaient pas impliqués. Alors, ce retracement fait ça. Et on arrive à une histoire, si on veut, causale, de cette façon ici, que se lit, si on peut lire ça ensemble, ça veut dire un substrat, dans ce cas, substrat numéro 2, vient introduit, ça c'est-à-dire ça simplement teste la présence du substrat 2, de kinase 1. Et le prochain événement, une fois que vous avez ces deux agents, le premier événement, c'est une liaison. Bien, S et K se sont liés, mais après, ils se sont dissociés. Et après, la kinase 1 se lie avec un substrat 1, avec un autre substrat, mais il se dissocie de nouveau de ce substrat et se relie avec le substrat 2, avec lequel il était lié avant. Et maintenant, il procède à phosphoryler, à se dissocier, et nous avons l'événement d'intérêt. Alors ça, c'était l'histoire causale. La raison pour laquelle cette histoire n'est pas une explication vraiment de ce qui s'est passé est que les événements qui sont ici ne sont pas tous nécessaires pour produire l'événement d'intérêt. C'est tous des événements qui ont été impliqués, qui d'une façon ou de l'autre se sont trouvés sur l'histoire qui a porté à notre événement d'intérêt, mais ce n'était pas nécessaire tous. Pourquoi ? Parce que clairement, ici, c'est S qui rencontre la kinase se délie, rencontre quelqu'un d'autre, se lie temporairement, se dissocie et revient au substrat avec lequel il était lié en avant, et après, l'événement d'intérêt se produit. C'est-à-dire que l'événement d'intérêt saurait puis produire aussi ici, que toute cette excursion était une excursion qui nous a porté, nous a reporté ici. À ce moment ici, nous sommes exactement dans le même état que nous avons été ici. Même si dans cette excursion, il y avait un effet latéral, une collatéral, on dit, effet side effect. Un effet de bord. Même s'il y avait un effet de bord, un effet collatéral. si l'effet collatéral n'avait rien à faire, n'avait un impact sur l'événement d'intérêt, alors c'est pratiquement relativement à l'événement d'intérêt, c'est comme cette détour avait aucune impact. Alors, on voudrait comprimer cette trace, passé causal. Dans quelque chose comme ça, où vous avez simplement vous avez éliminé cette détour qui n'avait aucun impact, qui c'était un cycle vide. Et exactement ça, à ce moment-là, vous avez une trace, si on peut dire, minimale, dont les événements sont tous nécessaires. Okay, alors ça, jusqu'ici, c'est pratiquement informatique standard. Ici, c'est un peu une petite augmentation du concept traditionnel parce que il faut comprimer pour arriver à la nécessité. Et ici, par exemple, ça, c'est une trace du système de modèle de recrutement qu'on a vu avant. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de situations où Il y a une liaison entre ces deux agents, une déliaison, ici une liaison, déliaison, liaison, déliaison, etc., etc. Il y a toute cette cycle où on fait, on défait quelque chose et ils sont juste à la fin, quelque chose se passe. Alors, il faut éliminer ce cycle. Je ne crois pas que c'est important au moment d'exactement comprendre comme ça, comment on fait ça automatiquement. Mais à peu près, on peut... Je laisse ça sur les diapositives, mais je ne crois pas que c'est critique dans le moment. Essentiellement, on transforme toute cette passé causal dans une formule logique pour laquelle on trouve une... C'est-à-dire, si on veut minimiser cette passé causal. Pour minimiser cette passé causal, c'est comme dire essayer de, par exemple, éliminer cette... On peut se demander, est-ce qu'on peut éliminer cet événement ici? Alors, le candidat d'élimination, cet événement ici. Mais si vous éliminez un particulier événement, il faut que vous retenez les événements qui sont nécessaires pour satisfaire les conditions des événements suivantes. Et alors, chaque fois que vous considérez de éliminer un événement, il y a des conditions logiques sur des autres événements qui vous disent s'il faut le maintenir dans la trace ou non, ou des autres événements qu'il faut les éliminer ou non. Alors, vous formez vous pouvez déduire de ces conditions logiques pour chaque événement que vous considérez enlever. Et ça vous donne une grande formule logique que vous essayez de résoudre avec un SAT solver pour minimiser les événements que vous retenez. Et alors ça, il est décrit dans la littérature. Vous donne une compression de cette histoire causale. Et cette histoire comprimée, on l'appelait une story, c'est-à-dire vraiment une histoire. Dans notre particulier cas, imaginez que vous avez une expérience numérique. Vous simulez un système, un modèle, vous arrivez à un événement d'intérêt, vous découvrez, l'ordinateur découvre qu'un événement d'intérêt s'est produit, et alors vous arrêtez la simulation, vous tracez dans le passé l'histoire causale, le passé causal, vous comprimez pour trouver une particulière façon avec laquelle cet événement s'est produit. C'est une histoire comprimée maintenant. Vous répétez et peut-être vous trouvez de nouveau la même histoire avec des différents agents, mais c'est la même forme d'histoire. Et alors, vous comptez 2, 3, etc. Vous faites une statistique maintenant, parce que c'est possible de faire des statistiques avec les histoires comprimées, c'est impossible de faire des statistiques avec des passés causales, parce qu'ils sont trop... Vous n'observerez jamais deux fois la même histoire causale. Mais vous observez la même histoire comprimée, parce que c'est vraiment le noyau de comme un événement s'est produit. Et peut-être vous trouverez dans une autre répétition, vous trouverez une autre façon avec laquelle cet événement se produit. Alors vous avez maintenant deux façons. Vous avez découvert deux façons pour produire un particulier événement. Je ne crois pas qu'on a compris encore exactement comment comment on peut calculer les statistiques proprement de cette histoire, parce que ce que je vous dis, c'est pratiquement une statistique de la première découverte d'un événement, mais on peut aussi contempler une situation où vous avez une longue simulation et l'événement d'intérêt se produit différentes fois dans différents points dans le temps, dans cette longue simulation, et vous voulez avoir une histoire pour tout cet événement, pour toute cette réalisation. Mais certaines histoires ont des passés communs, et ce n'est pas très clair exactement comment on fait, comment compter les statistiques. Parce que imaginez que notre substrat qui a été phosphorylisé se lie. Ce n'est pas possible dans ces règles, mais imaginez que ça, c'est une histoire d'assemblage. En fait, il est une histoire d'assemblage. La machine qui s'est assemblée, s'est assemblée pour la première fois, vous calculez une histoire comprimée. Maintenant, cette machine se délie, se dissocie en deux moitiés, supposons, et se relie de nouveau. Peut-être se relie avec une autre moitié d'une autre machine qui s'était assemblée. Alors, clairement, une moitié contient la même histoire. L'autre moitié contient une autre histoire, une autre partie de l'histoire. Alors, exactement comme ce sont deux histoires complètement différentes ou non, s'ils partagent certains événements. Alors, c'est une question, je crois, encore ouverte, comment on peut faire ça avec cohérence. Bien, alors, en tout cas, si on a, dans ce cas ici, on a deux façons d'assembler un particulier. Mettons que c'est une machine. Ce sont deux façons pour assembler cette machine. Et ça, c'est intéressant, je crois, de contempler ça dans le contexte de la causalité de Einus causality, de Mackey. Einus, ça veut dire... c'est une causalité qui représente un insufficient but necessary part of a condition that is unnecessary but sufficient. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un concept de la causalité très ancien. C'est-à-dire, supposons que ça, ce sont deux façons pour brûler une maison. Alors ça, c'est l'explosion d'une ligne de gaz. Ici, c'est peut-être vous n'avez pas fait attention à cendres qui sont toujours incandescents. Et alors, ce sont deux complètement différentes. Clairement, les cendres incandescentes, c'est une condition suffisant pour brûler une maison, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a une autre façon de brûler une maison, c'est-à-dire une explosion de gaz. Alors ça, c'est cette partie ici. Mais si vous concentrez sur les cendres incandescents, clairement, avoir les cendres incandescents ici, c'est nécessaire, mais pas suffisant, parce qu'il aussi il faut des autres conditions. Par exemple, il faut quelque chose, un coup de vent, ou quelque chose de matériau qui est nécessaire pour brûler, etc. Alors, toutes ces autres conditions sont nécessaires aussi. Alors, chaque partie de cette histoire n'est pas nécessaire par elle-même, mais seulement en ensemble. Alors, exactement une réalisation de ce concept de Mackey, de Einus causality. Ça veut dire aussi qu'on peut comparer, par exemple, ces deux histoires pour découvrir les règles qui sont communes aux deux histoires. Et si ces règles sont communes, alors, par exemple, si vous avez une mutation ou si vous avez fait une knockout ou quelque chose, une perturbation du système qui touchent les règles qui sont communes, alors vous prévenez l'apparition. Vous prévenez l'apparition de l'événement d'intérêt. Mais si vous intervenez seulement sur des règles qui sont spéciales pour un ou l'autre histoire, alors vous changez la dynamique ou la fréquence avec laquelle le système d'intérêt, l'événement d'intérêt se produit, mais vous ne prévenez pas l'événement d'intérêt du tout. OK. Après, on peut aussi superposer la carte des influences statiques pour examiner les influences dynamiques de chaque histoire sur une autre. Et vous voyez ça, c'est très joli ici, où cette trajectoire vraiment est la superposition de deux histoires. Et vous pouvez, de deux façons, de produire le même événement. Et vous pouvez numériquement, une fois que vous avez identifié les deux histoires, vous pouvez numériquement isoler la contribution d'une histoire de l'autre. Alors, ça, c'est déjà un peu plus proche à l'explication. Nous visiterons la causalité à travers les counterfactuals la prochaine fois, mais avant, deux minutes, je peux brièvement l'introduire, alors vous avez quelque chose à penser. Pour le week-end, le problème un peu de la causalité compris comme non-indépendance, c'est que c'est une causalité qui est exclusivement positive. C'est-à-dire, vous êtes une cause de quelque chose, un événement, une cause d'un autre événement, parce qu'il contribue positivement à la satisfaction d'une condition de l'événement suivant. Et ça, c'est un peu, si vous avez été au séminaire de Eric Smith, il a invoqué l'histoire de Sherlock Holmes, The Dog That Didn't Bark, Silver Blaze, c'est-à-dire il peut être aussi qu'un événement est une cause d'un autre événement parce que un événement A est une cause d'un événement B parce que A provient à l'occurrence d'un événement C qui, si C s'était produit, il avait prévenu à B. Alors, c'est le double négatif. Ici, c'est peut-être une illustration. Alors ici, vous avez une situation où vous avez une balle qui approche le goal par elle-même. Ici, vous avez une situation où la balle verte touche la balle rouge. La balle rouge va dans le goal. Est-ce qu'on peut dire que verte est une cause la balle rouge à entrer dans le goal? Contemplez cette situation ici. Alors, c'est la même situation comme avant, mais clairement, si verte n'avait pas touché rouge, aurait... C'est la concordance du temps qui est vraiment un problème. Aurait approché goal néanmoins. Il n'avait pas besoin de vert. Mais ici, il avait besoin de vert parce qu'il y avait un autre obstacle. Alors, dans ce cas ici, on dirait que vert est une cause de rouge, de l'entrée de rouge dans le goal, mais dans ce cas ici, pas. Alors ça, c'est l'idée du contrefactuel. Ça, c'est si vert n'avait pas ce produit. Alors, l'événement rouge, c'est-à-dire l'entrée de rouge dans le Gaulle, ne serait produit même. Alors, dans ce cas, vert est une cause de rouge. Et ça, c'est l'idée de la causalité à travers les contrefactuels. Et ça nous donnera une approche pour aussi découvrir les doubles négatifs ou aussi de contempler des situations qui sont pas de la causalité dure, mais de la causalité un peu plus douce, qui dépend un peu de probabilités. Parce que vous pouvez imaginer que cet obstacle a une dynamique lui-même. Et alors, donc, quelquefois, le rouge peut passer, mais quelques autres fois, il ne peut pas passer. Alors, c'est une question de probabilité maintenant. C'est plus une question blanc ou noir. On traitera ça la prochaine fois. Merci.